Je trouve ça très intéressant, c'est bien. La temporalité, elle est typiquement, c'est typiquement le déterminant, enfin le oui, qui lie de très très près toute une série d'attitudes de l'art contemporain et les ambiances, précisément. Ou ce que Gardner-Böhm appelle les demi-objets. C'est-à-dire, effectivement, ils sont fondamentalement. C'est peut-être pour ça quand même que dans l'histoire du Cresson, encore que le thermique à Nantes, c'est pas rien. C'est aussi du temps thermique. C'est aussi que c'est pas pour rien que il y a beaucoup de temps un peu pour toute une série de circonstances un peu peut-être plus économiques ou de commandes. On a passé beaucoup de temps sur le son et on en passe toujours parce que c'est précisément un type d'objet qui va échapper. Et, qui est profondément temporel. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est que ça, ni que la vision n'est pas temporelle, mais il est profondément temporel. Et donc, ça inquiète précisément le milieu dans lequel nous travaillons, et ici, des gens qui, apparemment, travaillent sur le spatial, l'espace, et sur un espace qui est limité par toute une série de dispositifs, et qui est un espace à voir d'abord. Et donc, qui va reproduire toutes ces catégories qui sont d'abord un indice visuel.
Et alors, j'avais prévu à l'origine de faire cette distinction entre ambiance et ambiente, justement, qui est quelque chose qui m'intéresse particulièrement en revenant sur l'origine du terme. Alors, ça a été résumé, synthétisé en une phrase et qui rejoint un peu cette question du pouvoir, justement, du pouvoir de l'environnement, de l'ambiance sur... la dimension psychologique aussi, par Jean-François Chevrier, qui, dans un texte qui s'intitule « Esquiver le design », fait cette différence entre ambiance et ambiente, et où il dit, voilà, l'ambiance est un conditionnement, alors que l'ambiente est une expérience. Et effectivement, ce terme d'ambiente, c'est un terme qui a surgi à l'époque des découvertes de Galilée, qui est bien sûr en relation avec la question du milieu écologique aussi, et c'est quelque chose qui est toujours une expérience, qui relève de l'expérience en devenir, qui est de l'ordre du vivant, à la différence du territoire. Il y a un très beau texte de Rosario Assunto qui fait cette distinction entre paysage, territoire, ambiente, et où il revient justement sur plusieurs distinctions effectuées. Par rapport à ça, cette question du conditionnement, justement, qui a souvent la question du conditionnement a souvent un caractère assez... assez négatif. Comment est-ce que vous pensez cette différence entre ambiance et ambiance?
Peut-être Jean-Paul Thibault en conclusion.
Oui, peut-être juste pour prolonger un tout petit peu la question sous une autre forme, mais bon, ça la communication m'en faisait penser. C'est juste un dernier point sur. C'était la référence à Benjamin, en fait, qui m'évoquait ça. Le fait de se dire, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de l'idée selon laquelle notre perception est aussi historique, historicisée, c'est-à-dire que nos cadres même de la perception évoluent dans le temps en fonction, alors si on suit certaines théories, mais encore est-ce qu'on les suit, mais évoluent dans le temps. Et donc, est-ce que une pensée esthétique, comment est-ce qu'elle peut intégrer ou pas cette transformation de nos cadres de la perception dans le temps aussi, quoi. Moi, j'entendais ça aussi dans la communication. L'idée selon laquelle il n'y aurait pas un organe sensorimoteur défini une fois pour toutes et immuable, mais qui est bien aussi une des transformations possibles soumises à des environnements, des transformations de l'environnement matériel, physique, culturel, technique, etc., qui fait que peut-être aussi, est-ce que ça, du coup, ça suppose de repenser la question esthétique dans aussi ces transformations-là, ou pas ? Je ne sais pas, c'est une question.
Oui, non, mais c'est évident, parce que toute atmosphère dans ces données physiques est déjà marquée par les caractéristiques du moment, enfin du temps historique, quoi. Elle change, mais elle change vite. Et puis ensuite, bien sûr, dès que la première perception commence à s'accomplir, donc elle devient un début de connaissance, elle va utiliser les filtres, les médias, etc. Ce qui est probablement les invariants anthropologiques, c'est quelques processus fondamentaux, quoi. Et peut-être justement, c'est pour ça que j'en ai parlé, cette articulation tensionnelle entre l'intérieur et l'extérieur, qui reste quand même un des grands invariants aussi de l'organisation des territoires, des habitats, etc. Bon.
Là, je crois qu'on est là peut-être plus proche de cette question de telle que peut se traduire l'ambiente et c'est cette idée que c'est un environnement, mais c'est autant l'environnement que l'expérience que cet environnement peut susciter.
Alors, sur ambiente, en même temps, le mot ambiente en italien, c'est tout. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est le grand fourre-tout, donc c'est important de le connoter, de mettre une grosse astérix sur l'ambiente.
Bien sûr.